Chapitre 11. Chaise Martin. Arthur Chaise Martin, notre ancien camarade de la pension Eudelet, appartenait, comme on l'a déjà dit, à une famille fort riche. Sa mère était la sécheresse et la dureté même. C'était une personne froidement moqueuse, tout à l'intérêt et à l'orgueil, sans pitié, sans entrailles. Son père était un égoïste faible, bouffi de vanité, et qui, physiquement, ressemblait à ces magots chinois qu'on donne aux enfants pour jouer. Pendant la révolution de 1848, il avait fait imprimer sur Indienne un dessin de mouchoir contenant les portraits des représentants les plus avancés. Il en avait, pour lui, tiré quelques exemplaires sur des foulards de soie et, quand il entrait dans une maison où il savait trouver des républicains, il déployait son mouchoir avec affectation, disant à haute voix
« Je me mouche dans la montagne ».
À la pension, on a vu Chaise Martin arrogant, prétentieux, insolent. Quand il entra dans le monde, ses qualités se développèrent et s'accrurent. Il vécut dans la jeune société rouennaise, mélange singulier, du moins à cette époque, de grossièreté et de culture, de littérature et de commerce. Il fréquenta les théâtres, connut des actrices et apprit avec elles à mépriser les femmes. Il lut les revues et les journaux de Paris, choisit les opinions qui, en toute chose, prêtaient le plus au dédain et s'appropria merveilleusement l'esprit du charivari et du corsaire. Ses parents voulurent le placer dans une grande maison de Rouen pour apprendre le commerce. Il y resta juste assez pour plaire à la patronne, déplaire au mari et faire des dettes. Quand il eut derrière lui un certain passif, il partit pour Paris, où ses relations, son nom et les démarches de son père lui firent promptement trouver une belle place dans une des maisons les plus importantes du commerce des tissus. Il n'interrompit pas pour cela ses flâneries littéraires. Il se lia avec quelques acteurs, eut des billets pour tous les théâtres, tutoya les cabotins et les cabotines et prit le goût de l'imitation Saint-Jaurès. Il se dandina comme Numa, parla comme Arnal, gesticula comme Ravel. Enfin, dans un souper où il y avait toutes sortes de monde, des filles, des comédiens, des journalistes et même quelques hommes de la haute société, on le présenta aux critiques attitrées d'une des grandes revues parisiennes. Ils causèrent beaucoup ensemble, se grisèrent de paroles et d'eau-de-vie, et lorsqu'ils se quittèrent, en trébuchant, ils se promirent de se retrouver. Dès lors, en effet, ils devinrent inséparables. On les vit partout ensemble, au théâtre, au café, dans la rue. Chaise Martin se fit le familier, le compagnon, le caudataire du critique. Ces deux natures négatives, privées jusqu'alors d'affection et qui n'en éprouvaient guère le besoin, s'attachèrent l'une à l'autre aussi fortement qu'elles en étaient capables. Le critique réunissait toutes les qualités qui pouvaient concourir à former l'idéal de Chaise Martin s'il en avait un. C'était un homme d'un goût juste et ferme, mais étroit et dédaigneux. Il écrivait avec correction, et dans la disette universelle où se trouvait la France de nobles esprits capables d'inventer et de créer en critique, il devait régner et exercer une autorité presque sans contrôle. L'admiration, qui chez nous est souvent bonne fille, s'attachait non à sa personne, mais à ses articles écrits d'un ton rogue, blessant même pour ceux qu'il louait et d'un orgueil outrecuidant. Sa sévérité lui avait valu une sorte de prestige. Il n'avait pas son égal dans l'éreintement. Malheur aux architectes qui bâtissaient des clochers peu solides ou qui décoraient mesquinement des monuments publics. Malheur aux sculpteurs qui moulaient au lieu de modeler ou qui montaient leurs héros sur quelque cheval du Limousin ou du Mecklembourg. Malheur enfin aux peintres qui faisaient du métier au lieu de faire de l'art et qui ne mêlait pas dans une proportion connue de lui seul critique le réel avec l'idéal, l'exécution solide avec la conception élevée. Mais c'était au littérateur qu'il gardait ses semonces les plus vertes, ses épigrammes les plus mordantes. Il n'avait jamais cru au romantisme, quoiqu'il l'eût vu naître. Il ne croyait pas davantage à l'école du bon sens. Il se moquait du lyrisme et il avait le réalisme en mépris. Aussi, tout écrivain qui débutait était-il à l'instant classé dans son cerveau sous une de ces trois ou quatre rubriques, et c'était alors des réprimandes sans fin, des conseils de retourner à l'école, de lire Sophocle s'il s'adressait à un auteur dramatique, Aristophane si c'était à un vaudevilliste. Il allait même, lorsqu'il était en verve, jusqu'à lui conseiller l'étude des deux ou trois vers qui nous restent de Polis et de Cratinus. Avec Phidias, il écrasait Pradier. Avec Shakespeare, Hugo. Avec Mozart ou Beethoven, Meyerheer ou Rossini. Et comme l'a dit un autre critique, qui s'est cru son rival et n'a jamais été que son envieux, il avait chez lui les plâtres des maîtres, mais pour les jeter à la tête de ceux qu'il n'aimait pas. C'était ses défauts chez cet homme qui charmait Chaise Martin. Dès le collège, il avait dévoré les articles signés de ce nom. Il s'en était approprié les plaisanteries et les avait employées pour faire pièce aux jeunes admirations qui se manifestaient autour de lui. Il en fut de même dans la vie privée. La raillerie pédantesque du critique confirma la gouaillerie et l'ignorant dédain du commis émancipé. Chaise Martin était fier de son grand homme. Il le produisait. Il le menait partout. Mais le grand homme avait bien aussi quelques obligations à son séide, et du jour où il le connut, il tourmenta moins le caissier de sa revue, et il accorda une plus libre carrière à son indépendance d'humeur, car, il faut le dire à sa louange, cet homme était pauvre, lui qui faisait trembler les artistes, qui gênait les académies, qui empêcha plus d'une fois les administrations de faire des sottises. Il n'avait aucun grade, aucun titre, pas un bout de ruban. Il n'était d'aucune des classes de l'Institut, quoique toutes le craignissent, et il n'avait exactement pour vivre que sa plume. Il habitait seul et triste dans un méchant hôtel garni, livré au dénuement le plus absolu, travaillant quand le besoin le poussait, et se hâtant de dépenser son salaire qui, presque toujours, était à moitié mangé d'avance. Ce fut là sa grandeur. Ce sera son honneur. Tout négatif qu'il était, il a laissé sa trace dans notre littérature. Il n'a suscité personne. Il n'a rien inventé. Mais il a empêché beaucoup de folies, arrêté plus d'une ambition soulevée par le seul caprice de la foule idiote et bafoué plus d'une niaiserie prétentieuse, plus d'une vanité scandaleuse. Pendant 20 ans, au milieu de ses épreuves personnelles, sans se laisser émouvoir un seul instant par la crainte, la camaraderie ou l'ambition, il a fait parler à la critique un langage clair et précis. Du jour où Chaise Martin eut rencontré cet objet de fanatisme, il se sentit complet. Il avait un arsenal où prendre ses railleries, une autorité reconnue pour les appuyer. Ce fut quelques mois après cette liaison qu'apercevant Jacques sur le boulevard Saint-Martin, il vint à lui et, quoique la cordialité ne fût ni dans ses habitudes ni dans ses manières, il l'engagea à déjeuner avec lui et le critique. Les circonstances empêchèrent cette réunion. Plusieurs fois le hasard remit les deux anciens camarades en présence et ce fut dans une de ces rencontres fortuites que Jacques présenta Foulogne à Chaise Martin. La connaissance fut rapidement faite, et un déjeuner, suivi bientôt de plusieurs autres, donna à Émile une haute idée de ce qu'il appelait l'urbanité bourgeoise.
« Quel malheur !»
disait-il un soir en rentrant un peu gris.
« Qu'un garçon aussi aimable soit un réactionnaire engagé. Ce sont des préjugés de famille. Il est républicain par les sentiments, conservateur par l'éducation. Funeste malentendu. »
Comme Jacques ne répondait pas, Foulogne, mêlant plusieurs ordres d'idées, continua.
Il était fameux, le petit vin de Beaune. Je comprends qu'avec un pareil ordinaire, on soit conservateur. Ah, qu'il est difficile d'allier des principes sévères avec une table trop bien servie.
Jacques n'avait pas été très satisfait de l'influence que la splendeur de ses déjeuners avait exercée sur Foulogne. Aussi, par une sorte de pressentiment et en même temps par une pudeur d'amant bien naturelle, l'avait-il prié de ne jamais parler de Caroline. Que ce libertin ne la voie pas, avait-il dit. Qu'il ne sache même pas qu'elle existe.
Comment?
Avait répondu Foulogne.
Tu ne veux pas que Caroline connaisse ses déjeuners? On n'en rencontre pourtant pas de pareil à la douzaine. Pauvre sœur, je m'étais réjoui de l'idée qu'elle goûterait du petit Beaune. Mais enfin, il en sera comme tu voudras. Je ne dirai rien.
Et il tint parole. Jamais, dans ses effusions les plus bavardes, il ne prononça le nom de sa sœur. Le hasard avait créé ces réunions, le hasard les rompit. Et Jacques, qui pendant tout le temps qu'elles avaient eu lieu avait été oppressé d'une inquiétude jalouse et secrète, respira plus librement. Aussi, lorsque le dimanche où Chaise-Martin ouvrit si brusquement la porte, il le retrouva comme par fatalité sur son chemin, fut-il saisi d'un sentiment étrange et douloureux. Il eut une vision soudaine, prophétique de sa destinée. Comment? Pourquoi? Dans quel temps? Il n'aurait pu le dire, mais il sentit que le malheur était entré dans sa vie, et cette fois pour n'en plus sortir. Caroline tendit la main à Arthur.
Vous êtes l'ami de mon frère, monsieur, et celui de Jacques. Cela suffit pour que vous soyez le mien.
Sur ce ton, qui supprimait toute cérémonie et qui supposait déjà une certaine familiarité acquise, la conversation s'engage. Vers 5 heures, les amis de Caroline prirent congé.
« Vous allez bientôt dîner ?»
dit Arthur.
« Oui, »
répondit Émile avec mélancolie.
« À la gargote. Eh bien, alors, je vous demanderai la préférence pour la mienne. Allons, Jacques, intercédez pour moi. »
Jacques se pencha à l'oreille de Caroline. Il était pâle et sa voix tremblait.
« Je te défends d'accepter. »
Elle le regarda, se leva toute droite, puis se tournant vers Chaise-Martin et d'une voix brève.
« Le temps de mettre mon chapeau, monsieur. »«
Merci, Jacques !»
s'écria Arthur.
« Si vous réussissez toujours aussi bien, je vous ferai mon diplomate ordinaire auprès de mademoiselle. »
Jacques essaya de sourire et ne répondit pas. Il frémissait de colère. On sortit. Arthur donnait le bras à Caroline. À côté d'Émile marchait Jacques, silencieux, navré.
« Est-ce que ça te contrarie ?»
lui demanda Foulogne.
« Pas du tout. »«
Vraiment, il est très convenable, ce garçon-là. Et s'il pouvait rester toujours ainsi, ce serait très agréable. Parce que, tu comprends, les dimanches, on se verrait quelquefois. » Ça ferait une société.
La mienne ne te suffit donc plus?
Si, mon vieux camarade, mais ce n'est pas la même chose. Tu es notre âme, il serait notre distraction.
Arrivé au restaurant, Arthur les fit attendre un peu, puis bientôt il les introduisit au premier dans un cabinet où il y avait des fleurs partout et une table richement servie. Ce fut avec une peine cruelle que Jacques vit chez Caroline la joie que ce luxe relatif lui inspira. Pendant tout le dîner, elle eut des émerveillements sans nombre. Elle s'extasia, elle fut aimable, attentive, presque caressante. Jacques, naturellement, fut boudeur, et tout le monde le railla, ce qui ne contribua point à l'égayer. Au moment de se séparer, Foulogne, un peu lancé, dit à Arthur en lui serrant les mains.
« Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas toujours nous recevoir sans que nous vous fassions une politesse. » Si vous ne venez pas dîner un dimanche avec nous, je ne remets pas les pieds ici.
Votre franchise me va au cœur,
répondit Arthur.
Et si mademoiselle n'y voit pas d'inconvénient?
Au contraire, j'y vois un plaisir.
Eh bien, comptez sur moi, mes amis. Je ne sais trop pour quel jour, car je vais voyager, mais un de ces quatre matins, vous me verrez tomber au milieu de vous et accepter gaiement votre hospitalité. »
Lorsque Jacques et Caroline furent sur le boulevard, Émile, les voyant se parler avec animation, ne voulut pas les gêner. Il se tint en arrière et s'arrangea pour ne rentrer qu'une demi-heure après eux.
« Qu'est-ce que tu avais donc ?»
disait Caroline à Jacques.
« Comme tu étais maussade. »
« Fallait-il prendre l'air aimable pour encourager Chaise Martin à te faire la cour ?»«
Et où vas-tu chercher ça, mon pauvre enfant ? Pourquoi ce monsieur, que je vois pour la première fois aujourd'hui, me ferait-il la cour ? Il a été poli, voilà tout. Tu as bien tort de t'inquiéter pour si peu. Si tu prends ainsi la mouche avec tous ceux que nous rencontrerons, tu ferais bien mieux de ne pas te marier, et même de ne pas aimer. »
« C'est toi qui m'en donnes le conseil ? » ?»«
C'est dans ton intérêt. »
« Je te remercie. Veux-tu que je t'en donne un aussi dans ton intérêt ?»«
Et lequel ?»«
Je suis pauvre et ce monsieur est riche. Tu aimes la richesse. »
Elle fit un geste. « Ne t'en défends pas, je l'ai vu dans tes yeux. Tu as joui tout autant du beau linge, des verres de cristal, des couteaux en vermeil, de l'argenterie, des fleurs, que des mets et des vins que l'on nous a servis. Après une année de misère, tu as eu un quart d'heure de bien-être, de luxe, de fortune. Et quand tu pourrais éterniser ce quart d'heure, quand tu n'as qu'à faire quelques grimaces et quelques avances, tu hésiterais ? Allons donc, dans ton intérêt, ma chère, épouse Chaise Martin. » Ils étaient arrivés devant le magasin de Caroline. Depuis quelques minutes, elle ne parlait plus. À la lumière d'un bec de gaz, il la regardait. Elle pleurait.
« Ah, Jacques, vous êtes cruel. Je ne veux pas vous quitter sur de si mauvaises paroles. Marchons jusqu'à la rue de Provence. »
Ils étaient l'un et l'autre bien embarrassés de reprendre cette terrible conversation. Jacques était honteux, Caroline désespérée, ils allèrent jusqu'à la maison.
« Viendras-tu dimanche ?»
demanda Jacques sèchement.
« Ah, ne nous séparons pas ainsi !»
répondit-elle en lui prenant les mains.
« J'étouffe !»
Quand ils furent dans la chambre, Jacques alluma une bougie. Caroline s'était assise et, la tête dans ses mains, les bras accoudés sur la table, elle pleurait.
« Quel motif t'ai-je donné,
dit-elle,
pour être si amère, si impitoyable? Est-ce que jamais, avec toi ou devant toi, avec les autres, j'ai fait la coquette? Est-ce que j'ai jamais demandé les plaisirs que nous n'avions pas? Ai-je regretté le spectacle ou les promenades à la campagne? Tu manges le pain de la pauvreté, mais auprès de toi, et sans mauvaise humeur, je le mange aussi, moi, et à belles dents. Les honteux calculs que tu me prêtes, si j'étais femme à les faire, crois-tu que je ne les aurais pas déjà faits ? Et si j'étais femme à me vendre, crois-tu que j'attendrais pour cela le temps où je serais laide et vieille ? Ah, le malheureux !
Continua-t-elle en se parlant à elle-même, et en s'échauffant de sa propre exaltation.
« Ah, le fou ! Ah, le méchant ! Que lui ai-je fait pour qu'il m'écrase ainsi le cœur, pour qu'il me barbouille ainsi le visage avec de la fange ? Je l'ai aimé comme une mère, comme une sœur, comme une fiancée. Mais c'est à toi !»
s'écria-t-elle en le regardant en face.
« C'est à toi-même que tu manques de respect en m'insultant. Si Émile savait ce que tu viens de me dire, il te haïrait autant qu'il t'aime. » « Tiens, »
fit-elle en remettant son chapeau.
« Je m'en vais. Je n'en veux plus. Je ne veux plus te voir. Je t'exècre. »
Et comme elle devina qu'il voulait l'accompagner,
« Laisse-moi, »
continua-t-elle avec un regard étincelant de colère.
« Je ne veux pas de ta compagnie. Je n'ai pas besoin de ton assistance. Va-t'en, mais va-t'en donc. »
Jacques avait écouté et suivi cette imprécation avec une stupeur profonde. Mais à cette dernière parole, il crut que, s'il ne tentait un suprême effort, il allait peut-être pour toujours perdre celle qu'il aimait. Il se jeta aux genoux de Caroline et crispant ses mains autour de sa robe.
« Pourquoi m'accabler ainsi? J'ai eu peur de te perdre. J'ai eu comme un pressentiment, je suis devenu fou. Ah, je ne t'en demande pas pardon. J'ai été coupable, c'est vrai. Mais je me sens à chaque minute disposé à l'être plus encore. Quand je pense à cette affreuse soirée que nous venons de passer, que je te vois près de cet homme, que je songe à ce que cette rencontre fortuite et passagère m'a fait souffrir, je ne me sens pas le courage d'arracher la colère de mon cœur. Caroline, si tu n'es que juste avec moi, je suis perdu dans ton affection. Ce n'est donc pas de la justice qu'il me faut, c'est de l'indulgence, de la pitié.
« Mais, malheureux enfant !»
reprit Caroline, désarmée et touchée.
« Que demandes-tu de moi ?»«
Que tu ne le revoies jamais. »«
Et comment ?»«
Le dimanche qu'il viendra, aussitôt après que nous aurons dîné, dis que tu as un travail pressé et retourne à ton magasin. » Si tu fais cela deux ou trois fois, il ne reviendra pas.
Eh bien, je te le promets, quoique ce soit bien insensé. Mais pour notre première entrevue au bord des prés Louvigny, pour nos joyeux déjeuners de la rue de Verneuil, pour nos bons dimanches de misère et d'amour, pauvre et cher Jacques, je te le promets. Allons, ne crains plus rien, donne-moi ta main, et crois-moi quand je te dis « je serai ta femme ». Mais c'est égal, vois-tu. Ne me fais plus de ces horribles scènes. Nous nous y perdrions tous les deux. Depuis un an, notre affection était si tranquille et si pleine. Ah, pourquoi l'as-tu troublée? Il y avait sur notre amour une première fleur. Ah, mon pauvre Jacques, j'ai peur de ne pas la retrouver demain.